بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني في الله. Nous remercions Allah Rabbul Izzah qui nous donne la possibilité dans cette décade bénie, donc de Dhul-Hijjah. Allah Rabbul Izzah nous ouvre une porte de bienfait et nous donne tawfiq, la possibilité. Allah nous choisit pour accomplir une bonne action. Et cette bonne action nous est profitable tant sur le plan spirituel, mais cela nous est profitable également par rapport à la construction et par rapport aux fondations de notre iman. Les fondations de la foi du mu'min sont basées sur la parole d'Allah Azza wa Jal. Plus le cœur s'imprègne du Qur'an, plus le cœur s'imprègne du Qur'an wa ma'anihi et du sens du Qur'an, cette foi, elle sera plus puissante et plus forte. Et du coup, lorsque on accomplit les bonnes actions, on ressentira, on se rapprochera de la halawatul iman, de la douceur de la foi. On trouvera plus de dévotion, plus de concentration, et avant même tout ça, on trouvera une grande source de motivation. Et on comprendra la valeur des bonnes actions. Ça, à partir du moment où le iman est présent, et ce iman est renforcé par le ilm, et principalement le ilm concernant kalamullah, la parole d'Allah Azza wa Jal, qui reste le guide pour tout mu'min jusqu'à la fin des temps. Quelles que soient les périodes, quelles que soient les fitnas, quels que soient les péchés qui nous entourent, il serait faux de dire qu'on est dans une. On vit une époque où il y a trop de péchés, où il y a trop de fitnas, où il est devenu trop difficile de pratiquer correctement. Du coup, on se suffit du minimum. Abadan. Quel que soit le degré de fitna, on a la possibilité de se rapprocher d'Allah, Azza wa Jal, par la parole d'Allah. Même à l'époque de Al-Masih al-Dajjal, de l'Antéchrist, le prophète alayhi salatu wa salam nous a enseigné que la lecture de la sourate al-Kahf, tout le monde a lu al-Kahf aujourd'hui, inshallah, par la lecture de la sourate al-Kahf, le mu'min est protégé. La protection, elle vient par la parole d'Allah. Le prophète alayhi salatu wa salam nous a certainement, il nous a dit que les lieux saints seront protégés, Makkah et Medina. Mais il n'a pas donné, on va dire d'une façon générale, l'ordre à tout mu'min d'affluer vers Makkah et Medina lorsque l'Antéchrist viendra. Parce que est-ce que il est possible pour tout musulman des 5 continents de s'orienter vers Makkah et Medina en même temps? Non. Allah seul sait à cette époque, est-ce qu'il y aura encore les moyens de transport comme il y a de nos jours? Allah seul sait comment sera le dunya à cette époque-là. Wallahu a'lam. Mais le prophète alayhi salat wa sallam n'a pas donné comme consigne celui qui va être protégé de l'Antéchrist qu'il trouve refuge près de la Kaaba ou dans ma mosquée. Il ne l'a pas dit, tout en ayant précisé que ces lieux sont protégés. Mais je veux dire que la réaction de tout mu'min, quelle que soit l'époque, quel que soit le lieu géographique, la protection du mu'min, c'est par la parole d'Allah, même à l'époque de l'Antéchrist. Et nous vivons une époque où, ikhwan fillah, on a vraiment, vraiment besoin de kalamullah. Je vous dis ça de façon très claire. Et je pense qu'à chaque reprise de Durus après un mois de vacances, on fait à peu près le même constat. Lorsque un mois, ou même moins qu'un mois, on n'étudie pas le tafsir, on sent qu'il y a une faiblesse de la foi. On sent. Il y a quelque chose qui est moins présent. On ressent moins la douceur de la foi parce que le cœur ne s'est plus connecté au ma'ani kalamillah, au sens de la parole d'Allah Azza wa Jal. Même si on a lu le Qur'an, tilawatan, mais l'étudier, c'est quelque chose qui nous apporte, subhanallah, une lumière extraordinaire, et ça reste notre guide. Et louange à Allah qui a protégé pour nous le Qur'an. Louange à Allah qui, de sa clémence, nous a donné un Qur'an, wa inna lahu lahafidhun, qui est protégé par la promesse d'Allah Azza wa Jal, que personne ne pourra falsifier ce Qur'an. C'est-à-dire qu'Allah nous l'a gardé pour nous, pour que le mu'min puisse le lire, le réciter dans la salah, le mémoriser, mais également trouver la guider à travers chaque lettre du Qur'an. Et ça reste, on va dire que le Qur'an, c'est le remplaçant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Nabi alayhi salatu wa sallam, dernier prophète de l'humanité, avec la révélation qu'il nous a laissée, c'est la parole d'Allah et la pratique du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si qu'on avait un nabi qui était avec nous. D'ailleurs, quand Aïcha radiallahu anha était questionnée à propos du comportement du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'elle disait? Hein, Hudhayfa, qu'est-ce qu'elle disait? Kana khuluquhu al-Qur'an. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam s'était entièrement imprégné de kalamullah. Et donc, les sahaba le voyaient, ils comprenaient qu'est-ce qu'Allah attend de chaque mu'min. Nous n'avons plus Nabiullah, mais nous avons Kalamullah, et nous avons en complément, et ça aussi c'est une spécificité à cette Ummah, que même la parole du prophète alayhi salatu wassalam, d'une certaine façon, est protégée par des grands savants, les chaînes de narration, Al-Asanid, c'est toute une science de Ulum al-Hadith. On a la possibilité d'étudier et d'entrer en contact avec le texte coranique, avec le texte prophétique, presque comme si qu'on habitait, presque comme si qu'on vivait à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que c'est le même Coran et ce sont les mêmes paroles que le prophète alayhi salatu wassalam a prononcées qui ont été transmises de sahaba à fils de sahaba, à petit-fils de sahaba, à arrière-petit-fils de sahaba, à génération de atba'i tabi'in et thiqa wa thabd, des grands savants qui nous les ont transmis comme le prophète alayhi salatu wassalam l'avait dit. C'est là les deux sources du mu'min. Si on veut avancer de la sirat al-mustaqim et avec des bases solides, on ne pourra jamais le faire sans s'imprégner de la parole d'Allah, du Coran et de l'enseignement de notre prophète alayhi salatu wassalam, enseignement qu'on comprend bien sûr à la lumière des commentaires de nos grands ulama, des grands savants, hafidhahumullah hada. Ainsi donc, nous, on a dit dans l'introduction que Allah donne tawfiq d'assister à une assemblée religieuse dans la première des quatre de Dhul-Hijja, tout en sachant que le hadith, je pense que vous les avez entendus aujourd'hui, Jum'a, et précédemment, le prophète alayhi salatu wa sallam, vous avez lu sur Facebook, on a dû le lire au moins 25 fois le même hadith. C'est bien dans un sens, ça fait mutala'a, hein, à travers les réseaux sociaux. Tout le monde, comment on appelle ça? Il y a un terme en anglais. Il transmet la même chose, les mêmes choses. Donc on lit le hadith plusieurs fois par jour et on finit par l'intégrer. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous a enseigné que les actions les plus aimées par Allah, ça veut dire quoi les plus aimées? Les plus aimées durant toute l'année, sans exception. C'est pour ça que les savants, ils vont même jusqu'à dire que cette période-là, cette première décade de Dhul-Hijja, les a'mal ont plus de valeur et d'importance que les a'mal qu'on fait durant la dernière décade du mois de Ramadan. Ça peut surprendre, mais c'est l'avis d'une grande majorité de savants, que les actions qu'on accomplit durant la première décade de Dhul-Hijja ont plus d'impact et sont plus aimées. Ça, c'est à la lumière du Nas Nabawi. Ce sont là les paroles du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont les plus aimées par Allah. Donc, ces actions-là ont plus de valeur que celles qu'on accomplit durant la dernière décade. Certes, Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. La nuit du destin, elle est supérieure à 1000 mois. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Mais les a'mal muwazza'a, les a'mal qu'on va répartir dans cette décade, ben, il n'y a pas une décade plus bénie et où les actions sont plus appréciées par Allah Azza wa Jal. Ainsi donc, on expliquait ça vendredi dernier dans une autre assemblée. Excusez-moi, j'ai pris la bouteille de ma fille, hein, c'est pour ça que c'est rose. La mienne n'était plus disponible. Il y a deux niveaux de compréhension de ce texte, de ce hadith. Quand le prophète alayhi salatu wassalam explique qu'il n'y a pas une période de l'année où les actions sont plus aimées par Allah que durant cette première décade de Dhul-Hijja. Et puis le sahaba dit au prophète d'Allah, même quelqu'un qui va dans le chemin d'Allah et ainsi de suite, le prophète a donné les précisions. Et dans un second hadith, on peut faire une fusion, le prophète a donné un conseil. Fakthiru fihi minat tahlili wa tahmidi wa takbir. Multipliez les tahlil. Tahlil, c'est dire la ilaha illallah. At-tahmid, c'est dire Alhamdulillah, tahmid, hamd, tahmid, alhamdulillah, et takbir, Allahu Akbar. Et qu'on peut retrouver ça de le takbir, tachir, Allahu Akbar, takbir, la ilaha illallahu, tahlil, Wallahu Akbar, takbir, walillahil, tahmid, walillahil, hamd. Et cette formule-là, sans s'éparpiller, dans certains textes, il est rapporté que le nom des sahabas ne me revient pas, je crois que c'est Hazrat Umar,
Et d'autres sahabas qui avaient l'habitude, dans la première décade, ils lisaient le takbir à voix haute, en allant dans les marchés, dans les endroits où il y a les gens. On ne parle pas du takbir tashri qu'on lit après la salah, du 9e au 13e. Non, ça c'est, on lit après la salah mubasharatan. Mais ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils lisaient à longueur de journée, dans la première décade, faisant en sorte que notre dhikr principal soit le takbir tashri. Tahlil, takbir et tahmid, qu'on retrouve dans les takbir et tahmid. Donc ils lisaient à voix haute dans les marchés, dans les endroits où il y avait du monde. Bien sûr, à notre niveau, on le dit tous les ans, on ne va pas faire ça. On ne va pas crier le takbir, kafwa, kura. On va avoir de gros problèmes, mais essayons de le lire au maximum. Vous êtes dans les embouteillages, tahlil, takbir et tahmid. Et ainsi de suite. Vous montez les escaliers, vous descendez, vous faites la queue en grande surface. On essaie de faire le maximum de adhkar, principalement ces trois adhkar, durant le takbir et tashrik. Également, là je m'éparpille, je voulais pas le faire, mais on le fait. Également, une lecture du Qur'an, mashallah. On essaie d'augmenter notre quota de lecture du Qur'an. Autant durant le mois de Ramadan, on voit les masajid qui sont pleines. Les gens après salat, tout le monde est en train de lire le Qur'an. Vous cherchez un mushaf, vous ne trouvez plus. Les gens, ils sont en train de lire, mashallah. Mais malheureusement, dans la première décade, les mu'mines, nous n'avons pas encore réalisé, et c'est dommage, malgré la présence des textes et des savants, on n'arrive pas encore à intégrer que c'est une période où je dois me donner à fond, autant que durant le mois béni. Mais vous savez quelle est la différence, Allah seul sait s'il y en a d'autres, par rapport au mois béni, c'est que dans la première décade de Dhul-Hijja, on a moins de facilité à accomplir les bonnes actions, à s'éloigner des péchés. Vous savez pourquoi ? Aywa, l'Oustad Ali, Fahim. Dans le mois de Ramadan, les shayatines ont moins d'influence sur Ibn Adam, sur l'être humain. Mais durant cette période, c'est une période ordinaire. Donc le Raddul Basar, le contrôle du regard, il n'est pas aussi aisé que durant le mois de Ramadan, subhanallah, c'est comme si que ces péchés-là n'ont jamais eu d'importance pour nous. Que ce soit écouter le haram, regarder le haram ou dire n'importe quoi, mashallah, ça devient normal de ne pas le faire. Mais là, c'est pas pareil. Du coup, on a un mujahada un peu plus, voilà, c'est un peu plus high level, on va dire, un peu plus compliqué à nous de faire le maximum d'efforts. Maintenant, alors, il y avait deux points que j'essaie de réunir. Quand on dit que multiplier les bonnes actions, c'est les adhkar, les du'as, idéalement, jeûner. Si quelqu'un a démarré le saum, le jeûne, depuis le premier Dhul-Hijja, mashallah, khair wa ni'ma. Si on ne l'a pas fait, essayons de le faire au mieux. Bien sûr, le point culminant, c'est le jeûne du 9e Dhul-Hijja. Ça avec les promesses du pardon des péchés. Mais dans d'autres narrations, il est stipulé que le prophète, alayhi salat wa salam, jeûnait les 9 premiers jours de Dhul-Hijja. Du premier jusqu'au 9e inclus. Donc si on n'a pas démarré, essayons. Demain c'est samedi. Si vous avez la chance d'être fonctionnaire, demain, mashallah, vous ne travaillez pas. On peut jeûner demain. On peut jeûner dimanche et enchaîner lundi. Lundi c'est un jour sunnah pour jeûner. Et puis mardi pour la réunion, idéalement. Quand on a un tawfiq de le faire. Donc il y a deux paliers de compréhension par rapport à ces textes. Quand le prophète dit, les actions sont les plus aimées. On a ce croyant de niveau moyen, qui se dit que c'est une période importante. Et il réalise que c'est une période importante. Et on a ce croyant qui, mashallah, il a le basira, la clairvoyance, il sait que c'est un moment important, donc il va faire de bonnes actions pour plaire à Allah. Il va faire des bonnes actions pour plaire à Allah. Non, et pour le plaire à Allah, ça c'est le troisième niveau au-dessus. Ça c'est le summum. La base, celui qui prend conscience. C'est vrai, c'est une période importante. Du coup, il va être un peu plus réglo. Il va faire moins de péchés. Il va essayer de se contrôler. Le deuxième palier, c'est celui qui va faire de bonnes actions. Bon, on lit un peu plus courant de Mamaï. Allons, on vient à Namaz Bonheur. Et ainsi de suite. Mais le summum, c'est celui qui a réalisé le maqsad. L'objectif, c'est que Ahabul a'mali ila Allah, les actions les plus aimées par Allah sont celles qui sont accomplies. Du coup, la personne va faire de bonnes actions et intérieurement avec ihtisabul ajr, l'espoir de rétribution et l'espoir de plaire à Allah. Quand tu te réveilles dans la nuit pour accomplir la prière de la nuit, tu prends ton suhur et tu lis ton Qur'an jusqu'au fajr et après fajr tu reprends ta lecture. Ne le fais pas uniquement pour dire que tu fais des bonnes actions. Le summum, le sens qu'on va donner et qui fera de cette action quelque chose de magnifique, c'est tu le fais, tu dis, Ya Rabb, là, dans cette période-là, tu aimes voir le mu'min accomplir de bonnes actions. Ya Rabb, ça c'est pour toi. Ya Allah, cette action-là, c'est pas toi, Ya Allah. Je suis ton serviteur, tu es mon Seigneur, je fais des bonnes actions afin que tu sois satisfait de moi. C'est-à-dire que c'est ressentir ce désir, cette recherche de contentement d'Allah à travers nos bonnes actions. Ça, c'est le summum. Ça fait partie des qualités intérieures de Ihtisab al-Ajl, rechercher le contentement divin, rechercher la rétribution, rechercher le Jannah et non pas une succession, une spirale ou une routine de bonnes actions. Pareil, parmi les actions les plus aimées par Allah durant la première décade, c'est quoi? L'udhiya, le sacrifice, on appelle le qurbani. Le sacrifice fait partie des actions qui sont les plus vertueuses. Après, bon, celui qui est au hajj, ça c'est le summum. Mais pour ceux qui n'y sont pas, le udhiya, ce qu'on appelle le qurbani, c'est une action qui trouve toute sa place durant cette première décade. Maintenant, on a cette personne qui va le faire parce que tous les ans, il le fait. Il va le faire parce que il a vu ses parents le faire, parce que c'est une tradition. Hein, parfois, ça devient presque une tradition, parce qu'il a appris qu'il faut le faire. Mais maintenant, il y a ce mu'min qui va acheter cet animal, qu'il soit gros, qu'il soit pas trop gros, qu'il soit beau ou moins beau, Allahu a'lam, il va le faire pour Allah Azza wa Jal. Il regarde ses comptes, il voit que sur le plan financier, ce n'est pas facile de trouver 200 euros, 250 euros. Il y a quelqu'un qui vendait un mouta 150 euros la semaine dernière. Trop tard. C'est parti. Avant que j'écris, je prends, elle dit c'est parti. 150 euros. Ajib quand même. Hein. Je ferme la parenthèse. Je ne vends pas de mouton. Hein. Je fais pas de business là. Hein. Et quand la personne se dit qu'il faut 200, 250 ou 300, et il se dit que voilà, c'est la rentrée des classes, c'est les effets scolaires, il faut vraiment serrer la ceinture, mais il dit que non, mais l'action la plus aimée par Allah en ce jour, c'est faire couler le sang, c'est-à-dire le sacrifice de l'animal. Le sacrifice de l'animal. Il dit que si Allah aime cette action-là, je vais faire mujahada pour le faire. Vous voyez la différence? Est-ce que vous saisissez la nuance? En celui qui, normalement, achète son animal, il le coupe sans vraiment penser à quoi ça sert presque, hein, et quels sont les tenants, les aboutissants, quels sont... Il connaît en gros les favoris, les vertus des actions, il y aura beaucoup de récompenses là-haut, l'animal pèsera de tout son poids, les cornes, les poils, et ça va dire au prophète, la laine, le prophète dit oui, la laine également, il y a ce niveau de compréhension. Et le summum, par contre, c'est ce que nous essayons d'atteindre, c'est de réaliser que l'action la plus aimée par Allah en ce jour, c'est ça, le sacrifice. Je le fais pour Allah, afin qu'Allah soit satisfait de moi. Ça, c'est une qualité qui est très profonde et qu'on doit essayer de faire émerger. Et cette qualité-là, si on arrive à faire émerger, on peut le retrouver dans toutes nos actions, même les répétitives, même nos cinq salats, même les doigts, quelle que soit la période, je le fais maintenant pour rechercher, en mettant en avant que je recherche le contentement d'Allah Azza wa Jal. Donc, premier enseignement, essayons de monter en niveau, pas de quantité, en niveau de qualité, de ikhlas. Le ikhlas, c'est pour Allah. Certes, le ikhlas, quand on dit pour Allah, c'est pas pour faire voir aux gens. Il n'y a pas de sum'a, il n'y a pas de riya, il n'y a pas de shuhra. Et le plus gros danger de l'udhiya, c'est le shuhra. Rechercher les éloges des gens. Et ça, c'est une maladie, ça, dans notre communauté. Telle famille, le plus gros bœuf de Saint-Denis, c'est dans la cour telle personne. Un tonne combien? Un tonne 3. Il arrive un tonne 3? Il arrive. Un tonne 3. Et il a payé ça, je sais pas tel prix, ainsi de suite. Et on est fiers. Quand les gens vont parler de nous, on est content. Khalas, cette action-là n'est plus pour Allah. Sahaba avait dans le prophète d'Allah, quelqu'un qui va dans le chemin d'Allah, qui recherche le contentement d'Allah, mais également telle chose et telle. Par exemple, on dit que non, c'est le contentement d'Allah, baisse. Et Allah, Rabbul Izza, nous rappelle, Ana aghna shuraka ani shirk. Allah ne veut aucun associé dans les actions et dans les intentions. On le fait pour Allah, basse. Si tu le fais pour Allah, mais également un petit peu, pour que les gens, ben, ils disent que, voilà, tu as honoré ta famille, khalas, c'est pour eux. Allah ne veut pas. Allah, Rabbul Izza, il veut que l'action soit pour lui et uniquement pour lui. Depuis l'intention, dans la façon de le faire, et quand c'est fini, ne rien rechercher. Pas d'éloge, pas de remerciement. La jaza an wala shukura wala shay. Ça, c'est le summum du ikhlas. Et le summum du ikhlas, c'est également orienter l'action. Rida, talabu rida Allah. Rechercher le contentement d'Allah à travers l'action. C'est-à-dire la prise de conscience du sens du amal qu'on est en train de faire. Qu'Allah nous ait la possibilité d'atteindre cet objectif dans notre udhiya et dans toutes les actions. Permettez-moi une énième parenthèse. Une personne m'a posé une question de fiqh, la dernière fois, concernant la répartition des parts. Les parts dans le sacrifice. Et là, on parle des gros animaux, comme le bœuf. Où il y a combien de parts d'un bœuf? 7 parts. Il m'a dit, est-ce qu'on fait comme ci, comme ça? Je lui ai expliqué. Après, je lui ai dit, vous êtes à combien exactement? Et vous dire combien de parts est disponible? Puis j'essaie de donner une indication. Il m'a dit que non, ben, il y en a plein de gens. Et je croyais que la personne parlait d'un animal qu'il achetait ici. Donc voilà, on s'est un peu plus impliqué de le masla. Après, il m'a dit, non, ça c'est envoyé l'aine, ça. Il a dit, ah d'accord. Et connaissant la personne qui m'a posé la question, je sais pertinemment que c'est quelqu'un qui a les moyens. Qui a les moyens, mais à l'aise. Bifadlillah. Après, est-ce que son impôt vient de sortir, ça ne me connaît pas. Mais, connaissant la personne, c'est quelqu'un qui a les moyens. Et là, j'étais un peu choqué. Je me suis dit que, mais, quelqu'un qui a les moyens comme ça, tu vas payer une part. Combien coûte un part bœuf laine? 30 euros. Hein? 30 euros. Hein? Est-ce que, dites-moi, est-ce que ça, c'est un sacrifice, ça? Allah connaît notre nia, on ne juge personne. On ne juge pas non plus la situation des gens, il est radin, non, la'oud billah, qu'Allah nous pardonne d'avoir un jugement sur un frère. Mais maintenant, je me pose la question. À travers chaque action, il y a une tazkiya, il y a une purification de l'âme. Il y a un but recherché qui nous permet de nous rapprocher d'Allah, mais en même temps, d'enlever les saletés. Quel est le but de la zakat? Zakat ul amwal, c'est le haqqun nas. Et les autres versets, c'est donner, permettre aux gens de manger, d'avoir un peu de moyens, mais également de purifier nos biens, deuxièmement, purifier nos biens de ce qui est mauvais. Et ça apportera la baraka. Si on enlève ce qui est mauvais, ça apportera la baraka. Et troisièmement, le tazkiya qu'il y a dans la zakat, zakatul mal, c'est aller à l'encontre de ce cœur qui est تحبون المال حبا جما. Ce cœur qui est attaché au bien, mon argent, à moi la gagner, à moi la travail, hein, dit ça, à moi la bonne chaussure, samedi après-midi. L'attachement pour les biens, l'attachement pour les biens de ce monde, pour notre argent, le test qu'il y a, la purification et le lavage intérieur se trouve dans la zakat. Cet argent 2,5 ou 1/40, tu le donnes, alors que c'est un argent qui, mashallah, c'est le bilan annuel. Mais tu le fais pour Allah et tu vas à l'encontre de ton nafs qui est attaché à cet argent. Et du coup, tu as gagné, tu t'es rapproché d'Allah, tu as affaibli ton nafs et tu l'as éduqué. La salah, tu l'éduques. Tu éduques ton nafs à contrôler le regard, à ne pas écouter n'importe quoi, à ne pas dire n'importe quoi, à ne pas penser à autre chose. Dans chaque amal, il y a une tazkiya. Il y a une possibilité de se purifier intérieurement, de se contrôler et de se rapprocher d'Allah en allant à l'encontre de notre nafs et ainsi de suite. De l'udhiya, de le sacrifice, mais il y a ce point commun avec la zakat. Toutes les actions en rapport avec les biens, c'est ça. C'est que c'est un argent qu'on va donner pour un sacrifice. Mais c'est également une bête. Après, ça c'est un autre niveau. Une bête qui nous appartient, qu'on aime et qu'on coupe, on le sacrifie pour Allah. Alors que c'était un animal qu'on aurait pu garder. Mais quoique de nos jours, personne ne garde pas les animaux. Mais si c'était une époque où on a un troupeau, ben on sait, une brebis que soit une brebis ou un mouton, que soit le mâle ou la femelle. Le mâle, il c'est pour la reproduction. Donc ça nous apporte quelque chose. Et la femelle, la brebis, c'est le lait, avec le lait, fromage et tout ce qui vient avec. Tout ce qui en découle. Et c'est mettre bas également des petits. On le sacrifie pour Allah. Et on donne une partie de la viande aux masakin, aux personnes qui en ont besoin. Et on en donne un peu à la famille. Tout ça, c'est tazkiya. Mais ce tazkiya-là, est-ce que quand on a mis 200 ou 300, on le ressent. On le ressent qu'on a fait un sacrifice. On a fait un sacrifice. C'est peut-être des économies. C'est depuis 6 mois peut-être. Tous les mois, je mets 50 euros dans une enveloppe. Chouaïa, chouaïa, comme on dit. Progressivement, jusqu'à avoir ce mabla. Mais entre nous, 30 euros, la haoula. Est-ce que 30 euros, ça a un impact? Est-ce qu'on ressent? Dites-moi, est-ce que quand vous savez que voilà, m'a envoyé l'argent laine, ils ont coupé un animal, est-ce que tu ressens quelque chose? Allah accepte. Mais je veux dire, quand on a la possibilité, si on a les moyens, Et si on a l'espace, la cour et bref, tout ce qui vient avec, autant le faire, autant le vivre. Et le faire vivre à nos enfants aussi. Si depuis qu'ils sont petits, les enfants ont pris l'habitude que, en cette période, papa achète un animal et voilà, il le soigne, il le nourrit, il le nettoie, et ainsi de suite, et mashallah, et puis le jour J, il le sacrifie pour Allah. Il intègre que ça, c'est le sacrifice d'Ibrahim alayhi salam. Il comprend l'importance de ce nabi, l'importance de son geste, et puis de l'incense aussi, qu'il a fait passer l'ordre d'Allah avant l'amour qu'il avait pour son enfant. Allah voulait voir son niya. Et son niya était mukhlis, était sincère. Allah voulait voir à quel point il était prêt à faire mujahada, à faire un sacrifice. Et son sens de son niya de mujahada était sans limite. Il a placé Allah avant n'importe quelle créature. Et au moment où il allait faire le sacrifice, Allah a envoyé sa nusra. Et l'histoire qu'on connaît, il y a eu le bélier à la place d'Ibrahim, de l'Ismaïl alayhi salam. Mais toutes ces valeurs-là, on inculquera à nos enfants si on fait le amal devant eux. De leurs yeux, ils le voient. Il y a une grande tarbiya et une grande thèse qu'il y a dans le sacrifice. Donc, c'était une parenthèse qui me pesait lourd sur le cœur. Il est dommage de voir que beaucoup de gens, ils baissent les bras. Pour Kurbani, ils ne se font plus de soucis, ils envoient à droite et à gauche. On essaie de faire ce sacrifice pour Allah. Il n'est jamais trop tard. Si vous voulez acheter un mouton, un cabri la veille de Eid al-Adha, au contraire, les prix baissent. Parce que tout ce qui doit être vendu a été vendu. Donc on essaie de le faire bi'idnillah. Donc parmi les actions les plus aimées, c'est l'udhiya. Maintenant, comme on a dit, les actions, il y a la personne qui va les faire de façon répétitive, et puis il y a celui qui le fera avec l'ikhlas qu'on a dit. Et vous savez comment est-ce qu'on va trouver cette source de motivation pour rechercher l'ikhlas, le contentement d'Allah. Tout ça, ce sont des valeurs qu'on va puiser dans les versets du Coran. Donc, si notre niya, notre bonne intention, nos efforts, nos sacrifices sont accompagnés par la lumière du Coran, c'est là qu'on atteindra Kamalul Iman. Kamalul Iman, la foi complète, c'est pas uniquement tu te lèves le soir, tu fais la prière de la nuit, tu jeûnes le matin et tu fais plein de bonnes choses. Tout ça c'est magnifique. Mais il faut que tout ça soit accompagné par la lumière de la parole d'Allah. Parce que Allah a révélé ça pour qui? Pour nous. Pourquoi tu n'en profites pas? Pourquoi est-ce que tu ne puises pas de la lumière qu'il y a dans les ayats, qu'Allah nous tawfiq durant donc cette décade, de faire le maximum de bonnes actions, tout ce qu'on a cité, et de nous imprégner de la lumière de ce Coran, et on essaie de le faire à notre niveau, 45 minutes par semaine, à travers l'étude de ces quelques versets, et cela, Inch'Allah, nous sera profitable. J'ai pas chronométré, on en est à combien de temps là? 20 minutes à peu près? 25? On fait encore 5 minutes. Inch'Allah. Certainement, ils ont besoin de fermer. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Innal insana khuliqa halu'a, idha massahu ash-sharru jazu'a, wa idha massahu al-khayru manu'a, illa al-musallin, alladhina hum 'ala salatihim da'imun. On s'arrêtera à ces premiers versets qu'on a déjà eu l'occasion d'expliquer à deux reprises. Après le mois de Ramadan, et après il y a une interruption, mais je pense qu'il est nécessaire de revenir encore un petit peu sur ce verset, afin de reprendre la sourate Al-Ma'arij, parce que le début du verset explique une description qu'Allah fait de l'être humain. Un trait de caractère de l'être humain. Innal insana khuliqa halu'a. Oui, l'homme a été créé instable. Dans la nature de l'être humain, il y a ce côté instable. Ça veut dire quoi, instable? C'est un mot facile, on traduit, l'on commenté par inquiet. L'homme est de nature anxieuse. Cette anxiété, c'est le résultat d'un manque de confiance en Allah. Et Allah décrit, c'est quoi ce halou'a, idha massahu sharru jazou'a? Quand le malheur le touche, il est abattu. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. Et quand le bonheur le touche, il est refuseur. Il est refuseur, c'est-à-dire, allez, on reprend depuis le début, lorsqu'il a une difficulté, il oublie son Seigneur. Il oublie qu'il doit avoir espoir en Allah et ne pas perdre espoir en Allah. Il oublie que les difficultés, ce sont des épreuves qui sont envoyées par Allah et que ces épreuves-là sont sous contrôle divin. Allah t'envoie l'épreuve. Allah a délimité l'épreuve. Allah n'envoie jamais une épreuve de façon illimitée. Non. Tout comme lorsqu'il y a un châtiment qu'Allah nous protège, c'est toujours limité. À l'exception de ce qu'on avait lu dans le début de la sourate Al-Ma'arij, quand Allah avait détruit certains peuples, c'était un vent illimité, une pluie sans limite. Allah a envoyé, l'objectif c'était de châtier tout un peuple. Et ils se sont retrouvés comme des palmiers qui étaient cassés, qui étaient déchirés. C'était un peuple qui avait été anéanti. Autrement, chaque chose est envoyée par Allah avec une certaine mesure. Donc, quand Allah envoie une difficulté, une épreuve, on doit réaliser qu'elle est limitée. Et Allah l'envoie pour une période aussi qui est limitée. Et Allah choisit les personnes sur lesquelles il envoie les épreuves. Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya. Les gens les plus éprouvés par Allah, ce sont les prophètes. Ensuite, ceux qui se rapprochent du niveau des anbiya. Idha in kana fi le hadith ne me revient pas. In kana fi imanihi salaba zida fi bala'i, ou comme a dit alayhi salatu wassalam, si sa foi est ferme, quelqu'un qui a quwwatul iman, la foi elle est présente, elle est forte, les épreuves seront plus fortes aussi. Parce qu'Allah éprouve son serviteur en fonction de ce qu'il peut supporter, en fonction de la puissance de sa foi et comment la personne peut accepter l'épreuve. Ainsi, plus on avance, plus on se rapproche d'Allah, plus on a des épreuves. Et donc, il serait un raisonnement erroné de se dire que telle personne, il vit bien, il est heureux, c'est parce qu'il s'est éloigné d'Allah. Donc Allah lui donne le dunya, ce dunya qui n'a aucune valeur pour Allah Azza wa Jal. Donc, la majorité des cas, il est de la nature humaine. Allah parle de la nature de l'être humain. Tout comme on avait vu, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّ. Allah décrit que de la nature de l'être humain, ben, il aime les biens. Dans d'autres versets, Allah décrit, إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَتُمْ بِسُّ. Que de la nature humaine, le cœur penche vers le haram. Le cœur penche vers le mal. Et là, Allah donne une autre description de la nature de l'être humain, que par sa nature, l'être humain est souvent atteint de désespoir, d'anxiété. Quand il a une difficulté, il oublie tout. Il oublie de qui vient l'épreuve. Et lorsqu'il a un bienfait, il oublie également que le bienfait vient de son Seigneur, de son Créateur. Et donc cette personne ne va pas remercier Allah. Un, il ne va pas réaliser que ça vient d'Allah. Deux, et la personne va même aller parfois dans la désobéissance parce qu'il veut jouir de ce bienfait. Trois, et lorsque quelqu'un lui demandera de l'aide alors que maintenant il jouit d'un bienfait, il ne tendra pas la main. Il refusera de venir en aide à son prochain. Personne de la difficulté, Allah lui a envoyé la baraka, il a maintenant les moyens. Quelqu'un tend la main, il dit que non, je ne peux pas te donner, tu n'as qu'à travailler. Alors que toi-même, tu es en train d'implorer, de mendier, et Allah t'a accordé. Ça, c'est malheureusement la nature de l'être humain. Illa al-musallin, à l'exception de certaines catégories de personnes, et on a fait une petite liste, il y a 9 qualités, 9 sifat qui sont cités de cette partie de la sourate Al-Ma'arij. À nous de les étudier une par une, ces sifats, ces qualités, pour essayer de les développer. Parce que celui qui a ces qualités-là, il ne tombe pas dans ce piège. Et il n'ira pas vers cette mauvaise compréhension. Parce que la personne qui, dans l'épreuve, oublie son Seigneur et ne fait que s'accabler sur son sort, c'est quelqu'un qui manque de clairvoyance. Et la personne qui, lorsqu'elle est comblée d'un bienfait, oublie Allah et ne fait que jouir du bienfait, et fait donc preuve d'ingratitude, cette personne a un problème de compréhension et de clairvoyance. Peut-être que dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un de bien avec un bon comportement, mais il n'a pas la vision islamique, il n'a pas la vision de iman, il ne réalise pas que tout vient d'Allah. Vous voyez la nuance? Une personne peut être régulière sur ses salats, ainsi de suite, mais n'a pas cette vision-là, que tout vient d'Allah. Difficulté, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Ni'ma, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Remercier Allah ou s'en remettre à Allah. Et ça doit être une qualité propre aux croyants. Mais celui qui ne l'a pas, c'est qu'il a un problème de compréhension. Et si on a ce problème de compréhension, ça veut dire que dedans, il ne pourra jamais y avoir un réel tawakkul ala Allah. Une réelle confiance en Allah. Parce que tu n'arrives pas à décrypter le monde par rapport au sunnat d'Allah. Il y a le Coran, sunnatullahi, fil ladina khalaw min qabl. Le sunnatullah, c'est comment est-ce qu'Allah a organisé le dunya. Quelles sont les règles fixées par Allah? Quand Allah aime une personne, Allah envoie une épreuve. Si tu n'as pas compris, c'est que tu ne connais pas suffisamment ton Seigneur et la façon dont il agit. Et donc, la personne qui n'arrive pas à comprendre ces subtilités et cette façon d'agir d'Allah, comment est-ce qu'il pourra avoir une confiance totale en son Seigneur? C'est-à-dire que dedans, il y a un problème, il y a une maladie spirituelle, il y a un axe, il y a un manquement. Et pour combler à ce manquement, il y a ces qualités à citer. Et la première qualité, on va s'arrêter à là, c'est « illa al-musallin alladhina hum ala salatihim da'imun », c'est-à-dire ceux qui sont assidus, sauf ceux qui pratiquent la salat, qui sont assidus à leur salat. On parle d'assiduité. On ne parle pas de la personne qui, durant le mois de Ramadan, mashallah, toutes les prières, et en dehors de ça, non. Non. Da'imun, c'est-à-dire al-muhafadha ala salat. C'est comme dans le « qad aflaha al-mu'minun ». Ce sont les mêmes, à peu près les mêmes qualités. Ceux qui sont fermes dans leur prière, ils n'en ratent pas une. Et autre tafsir, autre commentaire de Mufassirin, ce sont ceux qui sont assidus et qui développent le khushu', qui développent la dévotion lorsqu'ils accomplissent la salat. Qui développent la dévotion, c'est-à-dire la concentration. On terminera avec la citation d'Ibn Kathir, et c'est une très belle citation, un très beau tafsir, quand il dit « illa al-musallin, sauf ceux qui prient, qui pratiquent la salah, ay al-insanu, l'être humain, man asamahu Allahu, celui qui a été protégé par Allah, qui est protégé par Allah, protégé contre quoi? Contre ses déviances. Wa waffaqahu, wa hadahu ila al-khayri, wa yassara lahu asbabahu, à l'exception de ceux qui sont sous la protection d'Allah, ceux qui ont été acceptés par Allah, ceux qui ont été bien guidés par Allah pour l'accomplissement de ses actions et pour les personnes pour lesquelles Allah a facilité les asbab. Allah a facilité l'accès à ses bonnes œuvres. Allah te guide vers ses bonnes actions et Allah met dans ton cœur l'envie, le talab d'accomplir ses bonnes actions. C'est-à-dire, pour être un bon musalli, ça c'est tawfiq min Allah. C'est acceptation d'Allah. Nous devons demander à Allah de nous donner ces qualités-là. Oh Allah, aime-moi, accorde-moi la hidayah et guide-moi vers la salah, une salah à travers laquelle je recherche ton contentement. Ainsi, An-Nakhai, Ibn Mas'ud et d'autres mufassirs vont dans ce sens. Et on pourrait rajouter que la personne qui a intégré la valeur de la salah, qui le fait avec amour, avec dévotion, en recherchant le contentement d'Allah, cette personne va rectifier sa vision du dunya. Il comprend c'est quoi le dunya et il comprend c'est quoi la recherche du contentement d'Allah. On parlait d'un décalage de vision. Mais ce décalage de vision, on peut le rééduquer aussi, on peut le rectifier à travers l'assiduité et la dévotion de la salah. Là, tu comprends que ton lien avec Allah, c'est le plus important. Et donc, tu comprends le dunya. Que le monde s'écroule, j'exagère en disant que le monde s'écroule, mais s'il arrive des difficultés, on n'oublie jamais que le plus important, c'est ma relation avec Allah, et c'est dans cette relation avec Allah que je peux obtenir son aide. Et la pire des choses, ce serait d'être éprouvé dans mes a'mal, que je n'arrive plus à faire de bonnes actions, ou je ne trouve plus le temps. Ce serait la pire des choses. Que je perde un peu d'argent ou d'autres choses, c'est moins grave que de perdre cette connexion, ce lien avec Allah. Qu'Allah, Azza wa Jalla, dans sa clémence, ouvre nos cœurs, nos poitrines, et nous permet de comprendre ces quelques paroles, et on continuera, Inch'Allah, la prochaine fois. N'oublions pas de jeûner au maximum. On essaie de jeûner demain, on essaie de jeûner dimanche, de jeûner lundi, et l'apothéose de jeûner, Inch'Allah, mardi, et qu'Allah pardonne les péchés de l'année précédente et de l'année en cours par le jeûne qu'on fera, Inch'Allah, mardi, au matawfiq illa billah, subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifoun, wa salamun ala al-mursaleen, wa alhamdulillahi rabbil alamin, zakum khair.